il est 11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et aujourd'hui, chers auditeurs, en studio avec moi, j'ai le plaisir d'avoir Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors Anne, aujourd'hui tu es venue nous parler de chorale, je crois.
Oui, c'est ça, je vais vous parler de la chorale. Je vais vous parler de la chorale en général. Donc il faut savoir que dans la musique occidentale, la chorale c'est un ensemble de personnes qui chantent. Et donc on les appelle les choristes, et ils sont dirigés par un chef de chœur. Donc ils sont répartis en plusieurs groupes, on peut dire. Ça s'appelle des pupitres, et donc c'est en fonction des différentes voix. Donc après, ces voix, elles varient en fonction des chorales, enfin il y en a plus ou moins, enfin voilà. Moi je suis à la chorale du lycée Grandmont, et donc au lycée, on a trois pupitres, on fonctionne qu'avec trois pupitres, donc deux féminins et un masculin. Donc ben, on retrouve les altos et les sopranos pour les filles, et une voix qu'on dit de garçon, on va dire en fait, où il y a autant des basses que des ténors, enfin voilà. Et donc moi personnellement je suis soprano. Donc les sopranos c'est ceux qui ont la tessiture, donc la tessiture c'est l'étendue vocale, donc la voix. Et donc c'est celles qui chantent grossièrement les plus aiguës en fait. Donc la plupart du temps c'est des femmes, mais après bon, on connaît tous dans l'histoire les castrats, donc qui sont des sortes de sopranos féminins, enfin masculins du coup. Les altos après c'est donc ceux qui sont avec des tessitures en dessous des sopranos, donc un peu plus graves. Et les garçons c'est, enfin on met un peu tous les garçons, mais du coup ce qui est sympa c'est qu'on peut avoir autant des garçons qui ont des voix plus aiguës que graves, et ça donne un beau mélange pour faire des jolies harmonies. La chorale à l'origine, c'est vraiment, ça a été créé pour les cérémonies, les rites, etc. au XVIe siècle. Donc on a encore parfois cette vision un peu grossière de la chorale, où c'est plus des chants d'église en fait. Mais ça a évolué et maintenant en fait il y a beaucoup de genres différents, de styles différents de chorale, et beaucoup de tranches d'âge aussi différentes qui en font. Et en plus, c'est quand même une technique. La pratique du chant, c'est quand même très complexe parce que on utilise vraiment tout le corps en fait. On utilise autant les poumons que les cordes vocales, que les neurones du coup pour penser à ce qu'on fait. Le diaphragme aussi, il est utilisé. Le palais, les abdominaux, on n'y pense pas forcément, mais les abdominaux aussi. Donc c'est vraiment une discipline qui est complexe et complète aussi. Donc nous au lycée, on est dirigé par notre professeur de musique, donc elle s'appelle Isabelle Faes. C'est la chef de chœur et elle est aidée de Fabien Bello qui nous fait des arrangements, tout ce qui est arrangement vocal, la guitare, les bandes son, etc. Et on a d'autres musiciens aussi pour les concerts. Et on a aussi Françoise qui s'occupe des costumes et de la mise en scène, etc. Ça fait un peu plus de 50 ans qu'elle existe, notre chorale. Donc elle a quand même un certain nombre d'années. On est moins qu'il y a quelques temps aussi dans le nombre, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très connu non plus. À notre âge, il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent « je vais aller faire la chorale ». Et pourtant, ça prend pas forcément beaucoup de temps en fait par semaine quoi. Enfin nous on a des répètes, c'est une fois par semaine. On a un stage aussi de 2 jours où c'est vraiment super. On va chez Digny, on dort là-bas donc, et on vraiment fait que de la chorale pendant 2 jours, que chanter, etc. C'est vraiment super comme ambiance. Et on chante vraiment des styles hyper différents, on chante autant du français que de l'anglais. Et ça crée vraiment du coup une ambiance solidaire, chaleureuse. Parce que tout le monde est réuni en fait autour d'une même passion. Et c'est pour ça que je trouve ça important de redire aussi que c'est pas forcément que ce qu'on pense, la chorale. Moi personnellement après ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. C'est ma 3e année de chorale à Grandmont. Et vraiment je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pendant les 3e années de lycée parce que... ça apprend à s'exprimer, c'est une passion qu'on partage, on se fait des amis. Enfin moi je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. Et personnellement, ça m'a apporté vraiment confiance en moi par rapport quand je suis arrivée au lycée. C'est grand, c'est pas trop où on est. Ça fait du bien de se retrouver dans un petit groupe où on se reconnaît.
Alors peut-être qu'on peut, Anne, écouter un premier extrait, en fait, une première... voilà, donc tu nous as choisi deux extraits de cette chorale. Donc c'est le spectacle 2019, je crois.
C'est ça.
Alors est-ce que tu veux déjà nous présenter ce spectacle? C'était celui de l'année dernière, c'était quoi le répertoire un peu?
C'était un répertoire assez varié. Il y avait autant des chansons anglaises que françaises, c'était des chansons assez originales, des chansons qu'on connaissait tous. Il y avait aussi l'orchestre qui était là, parce qu'on n'a pas que la chorale, du coup au lycée on a aussi l'orchestre, où il y avait des chansons qui étaient autant qu'avec des chanteurs, d'autres qui étaient vraiment qu'avec des musiciens, d'autres où il y avait les deux. Et ça donnait un ensemble sympa. Et donc là, j'ai choisi deux chansons qui étaient vraiment, vraiment cool. Et il y en a une, d'ailleurs, je ne sais pas laquelle on va écouter en premier, mais où il y en a une où il y a des solistes et d'autres où vraiment c'est que la chorale qui chante l'ensemble de la chanson.
Et alors ce spectacle, il s'appelait L'avantage avec les animaux. C'est un peu mystérieux comme nom, alors pourquoi ça s'appelait comme ça?
On a toujours des titres et des titres et des idées de spectacles qui sont assez larges pour pouvoir pour que en fait chacun puisse s'y retrouver aussi. Enfin, on donne pas spécialement d'explications au titre ou des choses comme ça. En fait, c'est pas le but. C'est vraiment pour que chacun puisse prendre son interprétation. Et la première chanson du spectacle s'appelait L'avantage avec les animaux.
Voilà, on ne saurait pas plus. Donc, faut aller écouter tout le spectacle. Donc, on retrouve ces chansons sur YouTube. Et on va écouter donc une des deux chansons que tu as choisies pour cette émission. Et donc là, c'est Yael Naïm.
Inside, one.
Yaël Naïm, chantée par la chorale du lycée Grandmont. Donc vous pouvez retrouver, chers auditeurs, cette vidéo sur le compte YouTube la chorale de Grandmont. Alors, Anne, où étais-tu dans ce morceau?
J'étais donc avec les sopranos et dans la chorale. Donc.
Voilà.
J'étais dans la chorale et il y avait des solistes.
Ouais, il y avait des, donc on a vu, il y avait des jeunes femmes qui chantaient, en soliste, il y a une jeune femme qui chantait toute seule et puis il y avait un groupe de jeunes femmes sur le devant.
C'est ça. Elles
Voilà.
sont toutes solistes, mais parfois on fait des associations de plusieurs solistes pour des chansons.
Et alors, ce qui est fantastique quand on voit la vidéo, donc j'invite les auditeurs à aller regarder, c'est qu'on voit dans le cœur, on voit vraiment les yeux qui pétillent, on voit des sourires. Et donc, c'est beau à regarder aussi, de voir que on a l'impression que ça rend heureux, en fait.
Ça rend totalement heureux. Puis c'est pendant une semaine de concert, donc on fait une semaine comme ça où on fait des concerts tous les soirs. Et malgré la fatigue des cours qu'on suit la journée et les cours le lendemain et le concert, enfin, on est toujours très très heureux d'être là et on se donne à fond.
Comment tu y es allé, toi, dans cette chorale? Parce que tu expliquais tout à l'heure que ça fait 3 ans que tu es dans cette chorale, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que tu chantais avant? Est-ce que tu t'es dit, allez, j'essaie? Comment c'est arrivé?
Je chante depuis vraiment que je suis petite, c'est vraiment une passion la musique. Et donc j'ai entendu parler donc au lycée Grandmont, donc qui était mon lycée de référence, qu'il y avait une option musique, donc ça m'a tout de suite intéressée. Et j'ai vu aussi qu'il y avait la chorale, et du coup je me suis renseignée dessus, j'ai vu des vidéos et tout, et je me suis dit bah, on y va.
Alors comment c'est perçu, parce que tu disais que c'est pas très commun peut-être pour des jeunes qui ont ton âge de chanter dans une chorale, quand tu en parles à des jeunes, des gens qui ont ton âge, mais qui ne sont pas eux-mêmes dans cette chorale, comment ils réagissent? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce qu'ils se disent que c'est un truc de vieux?
Ouais, ça attire pas trop parce que j'ai fait un petit forum, on fait toujours ça en début d'année au lycée, et donc je présentais la chorale et j'ai essayé de parler à pas mal de personnes, des secondes entre autres, qui venaient voir. Et en fait, à part les personnes qui étaient vraiment déjà intéressées en fait d'avance et qui connaissaient déjà la chorale, il n'y avait pas grand monde qui venait pour découvrir en fait. C'est vraiment perçu comme oui, quelque chose d'assez vieux. Et puis par son origine aussi, qui était vraiment plus église, en fait, on garde un petit peu cette image, en fait.
Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être aux ceux qui hésitent, qui n'osent pas trop se lancer? Peut-être que c'est aussi parce qu'ils ont peur de dire, ah, mais je vais chanter faux, je vais être nul. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire?
Que, en fait, s'il n'y a pas trop de questions de vouloir chanter juste ou pas, en fait, on est un peu porté aussi par le groupe. On est porté par le groupe et en même temps, on sent qu'on a quand même une place individuelle, en fait. Et enfin, faut pas hésiter parce que bah, les lycées, ça passe hyper vite. Et enfin, c'est vraiment des beaux moments qu'on partage et qu'on garde en fait. Et on se fait vraiment des amis. Et enfin, franchement, c'est quelque chose qu'il faut faire en fait.
Alors comment ça se passe? Parce que toi, tu as déjà une pratique du chant avant d'entrer dans cette chorale, mais comment on arrive à accorder sa voix en fait avec celle des autres, surtout si on n'est pas déjà chanteur, comment ça se passe?
On est entouré d'autres personnes en fait qui vont chanter la même voix, on n'est pas tout seul, donc même si c'est des moments où certains morceaux on est moins à l'aise ou quoi que ce soit, les autres vont porter. Et au bout d'un moment ça devient. Ouais, ça devient un groupe en fait vraiment, et du coup on apprend à s'écouter en fait.
Ce que tu disais, c'est qu'on devient un groupe, donc peut-être que ça permet d'oublier le milieu social, les origines de chacun. Peut-être que pour certains, se faire du sport, c'est difficile pour plein de raisons, et donc de se dire là, c'est une façon de faire quelque chose de collectif.
Oui, bah oui, totalement, parce que là, il n'y a pas de question de. Il n'y a pas de question d'aptitude, en fait. Il n'y a pas ce problème-là que, oui, on peut avoir, par exemple, dans le sport ou dans plein de choses. Enfin, même quand on joue d'un instrument, par exemple, il y a le problème de la maîtrise aussi, alors que là, on ne demande pas forcément une maîtrise, en fait. Même si on n'a jamais chanté, ça n'empêche pas de venir chanter à la chorale. Ça s'apprend, et on a les autres pour nous apprendre aussi.
Eh bien, je propose, pour qu'on se mette la chorale dans l'oreille, qu'on écoute le deuxième extrait que tu as choisi. Que tu veux nous dire ce que c'est?
Donc bah celui-ci c'est une chanson où vraiment il n'y a que la chorale qui a chanté et on a travaillé dessus dès le début d'année. Après oui c'est vrai que c'est intéressant d'aller la voir la vidéo parce qu'on a des gestes aussi, donc des mouvements qui ont été faits par Françoise. Et ça rend vraiment quelque chose de sympa.
Alors on va écouter ce morceau, c'est quoi? Tu veux nous redire?
C'est donc Mutate de Jana Dead.
Adèle, pardon pour mon excellent accent, par la chorale du lycée Grandmont. Merci Anne de nous faire découvrir la chorale du lycée Grandmont. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est sur scène? Parce qu'on voit là ce chant chorégraphié, c'est très beau. On invite vraiment les auditeurs à se rendre sur la chaîne YouTube Chorale de Grandmont, où ils retrouveront cette vidéo et d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Comment quand on est sur scène?
On voit pas la même chose du même angle en fait. On voit plus, on voit pas vraiment donc ce que ça donne dans l'ensemble, mais on fait partie en fait de l'ensemble, donc c'est vraiment complètement différent. Mais il y a une sorte d'adrénaline aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est une émotion qui est vraiment géniale. C'est super.
Alors là, on voit vraiment un chant avec une chorégraphie, c'est impressionnant. Vous avez passé énormément de temps, je pense, à faire ça.
Oui, on a passé du temps et c'est Françoise donc qui s'occupe de tout ça et qui s'occupe aussi des costumes parce qu'on peut voir aussi qu'il y a quand même assez des jeux de couleurs, des choses comme ça. Et donc oui, elle s'occupe de tout ça et c'est beaucoup de travail aussi.
Qu'est-ce qui va se passer alors à la fin du lycée, comment tu. Je pense que tu auras envie de continuer à chanter, quoi. Où est-ce que tu vas aller chanter?
Le problème, c'est qu'on n'a jamais envie en fait de quitter la chorale, quoi. Enfin, quand on quitte le lycée, c'est le problème. Et ben justement, c'est le souci que je voudrais rester en fait à la chorale du lycée. Donc de toute façon, je garderai contact avec mes meilleurs amis, donc je me suis fait là-bas, etc. à la chorale. On continuera de chanter de toute façon. Enfin, ça arrête jamais de chanter quand on aime ça. Donc
Donc voilà, est-ce que peut-être dans ton quotidien, est-ce que tu chantes? Peut-être pour toi, pour les autres, au-delà de la chorale?
oui, je chante pas mal. Enfin, je prends des cours à Tous en scène. Et oui, je chante donc oui beaucoup. Je m'accompagne enfin à la guitare souvent. Et oui, quand on aime chanter, vraiment, faut pas se retenir, même si on dit qu'on chante pas juste ou quoi que ce soit, ça peut être un moyen d'expression qui est vraiment super.
Voilà, et alors comment on travaille sa voix? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer si on a envie de chanter mieux ou plus?
Bah déjà, enfin pour moi, personne en fait ne chante faux. C'est juste une question d'écoute en fait, de savoir écouter et de travailler justement en fait ça. Parce qu'en soi, avec de la technique ou juste des petits exercices, ça débloque vraiment en fait. Et aussi le côté des fois d'être aussi tendu, enfin de toute façon de la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, on peut avoir les articulations tendues et même si c'est la voix qui fonctionne, le corps ça joue un rôle dans le chant.
Que t'aimerais peut-être recommander d'autres choses à écouter à nos auditeurs ou leur donner un exercice pour se chauffer la voix le matin quand on se réveille?
Oui, bah enfin, après on peut faire tout ce qui est faire comme quand on mange quelque chose de délicieux, enfin des choses comme ça c'est vraiment quelque chose qui réveille la voix. De monter dans les aigus, descendre dans les graves, faire des choses comme ça réveille beaucoup la voix et même après pas forcément que pour chanter, hein, ça peut être utile même je sais pas quand on fait une réunion ou quand on doit faire un exposé, quelque chose comme ça.
Ou de la radio aussi.
De la radio, exactement.
Voilà, et bien alors, chers auditeurs, n'hésitez pas, voilà, comme nous le recommande Anne, à vous échauffer la voix, comme si vous mangiez quelque chose de délicieux. Merci Anne.
Merci à vous.
Radio Campus Tour.
Que des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut.
Radio Campus Tour.
Y'a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée.
Cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.
RadioCampusTour.com.
La 46e édition du Florilège Vocal de Tours, compétition internationale de chant choral, se tenait du 26 au 28 mai 2017. 7 chœurs, 6 pays, 3 jours de concert. Cinéma Paradiso et Le Dahu vous proposent deux émissions spéciales à cette occasion. Vous entendrez ici Sébastien Durand, président du Florilège Vocal de Tours, et le quintet Piccolo. Bonne écoute. Monsieur le Président, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous sommes à la 46e édition du Florilège, je crois.
Oui, Florilège Vocal de Tours, donc concours international de chant choral.
Alors, depuis combien d'années êtes-vous président de cette institution?
Alors, en fait, ça doit être la 4e année maintenant. Voilà, depuis, oui, 2014, mais j'avais pris un petit peu avant. Et ça fait déjà de nombreuses années que je suis dans l'association avant d'être président. Voilà. une dizaine d'années très exactement que je suis membre de l'association et actif dans l'organisation de cet événement.
Je suppose que vous avez un intérêt particulier pour le chant choral. Comment vous avez venu cet intérêt ?
Alors en fait, c'est aussi mon métier parce que je suis à la fois, j'enseigne à l'université François Rabelais et puis je suis chef de chœur et chef d'orchestre de formation et j'ai longtemps, je le fais encore de manière ponctuelle, mais j'ai longtemps dirigé des chœurs, des orchestres, donc c'est tout à fait un univers que j'adore et que je connais bien.
Donc le festival est né en 1962, ça fait 47 ans si je compte bien. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur ces 47 années, nous raconter un peu ce qui s'est passé ?
Alors il y a une grande richesse parce que effectivement c'est à la fois une tradition et à la fois je dirais un événement culturel qui a toujours évolué au fil des années. C'est pas quelque chose qui est resté statique, figé. Il y a eu toujours des nouveautés. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire un petit peu le lien ? Ben l'idée c'est qu'on a gardé l'esprit fondamental, on va dire, de l'événement, c'est-à-dire l'échange par la musique, la rencontre entre des chœurs venus du monde entier, l'intérêt pour l'excellence de la polyphonie chorale et en même temps le partage, la rencontre. Voilà, je crois que c'est vraiment la philosophie qui a été impulsée dès le début de la création de ce concours et qui ne s'est jamais démentie depuis.
Donc vous parlez quand même de professionnels, c'est un concours qui a une envergure internationale, mais comment vous arrivez aussi à intéresser les Tourangeaux à cette manifestation qui ne serait pas professionnelle ?
Alors, d'abord, il y a effectivement une grande tradition aussi dans le public, c'est-à-dire qu'on a à la fois tous les ans du public nouveau qui nous rejoint, on en est bien heureux, et il y a aussi un noyau dur de public fidèle qui vient pas seulement de Touraine d'ailleurs, mais on peut dire de toute la France, puisque nous sommes le seul concours international de chant choral sur notre pays. Donc, c'est effectivement un concours qui intéresse beaucoup les mélomanes, les amoureux du chant choral. Et le lien, vous me posiez la question du lien avec les Tourangeaux, il se fait de deux manières, donc par le public et aussi par les chœurs, parce qu'il y a de nombreuses chorales en Touraine et de nombreuses chorales de grande qualité. Et les chœurs Tourangeaux, bah, nous les associons d'ailleurs depuis 3 ans maintenant avec ces avant-concerts que nous avons mis en œuvre, des mini-concerts qui ont lieu en avant-concours, avant le concours, dans le péristyle du Grand Théâtre et qui permettent d'entendre des chœurs tourangeaux qui se produisent donc un petit peu avant le concours et les chœurs internationaux présents à Tours.
Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être quelques-uns de ces chœurs tourangeaux qu'on aura le plaisir d'entendre cette édition, s'il y a quelques-uns qui vous viennent ?
Alors, il y aura effectivement un chœur de Saint-Avertin qui s'appelle Chant-Avertin, qui va chanter demain en ouverture du concert en plein air Place de la Résistance, donc le dimanche. Et puis nous avons également un autre chœur ce soir. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, bah, il y a un croisement entre des chœurs amateurs qui ont déjà un bon niveau, mais qui peuvent rencontrer des chœurs aussi amateurs, parce que je tiens à préciser que même si le niveau des chœurs internationaux qui se produisent ici est un niveau, on peut dire, professionnel, mais ce sont des chœurs amateurs, c'est-à-dire en ce sens que les choristes ne sont pas rémunérés comme peuvent l'être des chœurs professionnels dans les radios ou d'autres. Voilà. Donc il y a une rencontre qui se fait et c'est tout à fait salutaire pour découvrir d'autres façons de chanter, une autre exigence et en même temps du répertoire. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on ouvre ses oreilles et son esprit, je dirais.
Et il y a aussi le concert de clôture, je crois, qui est en plein air. Donc là, pour le coup, tout le monde peut venir, choriste ou pas.
Effectivement, si tout va bien, c'est en plein air. Alors en général, depuis de nombreuses années, ça a pu se faire sans problème. C'est donc dimanche à 18h, place de la Résistance, à Tours. Il ne faut pas s'inquiéter, ceci dit, si jamais le ciel n'était pas trop clément, il y a un lieu de repli qui est le Grand Théâtre de Tours. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. Le Grand Théâtre de Tours était plein à craquer, puisque nous avons eu une météo défavorable. Mais cette année, j'espère que tout ira bien et que nous pourrons profiter des arbres de la place de la Résistance.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos autres occupations musicales en dehors de ce concours, puisque vous disiez que vous en avez fait votre vie, de la musique et du chant ?
Oui, complètement. Alors déjà, il est vrai que je reviens quand même un petit peu sur le concours, ça m'occupe beaucoup, parce que comme nous sommes le seul concours en France international de chant choral, mais nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle le Grand Prix Européen de Chant Choral, donc les lauréats des concours particuliers partenaires. Nous sommes partenaires avec des concours, le concours de Debrecen en Hongrie, le concours d'Arezzo en Italie, le concours de Varna en Bulgarie, celui de Maribor en Slovénie et celui de Tolosa en Espagne et Arezzo en Italie, peut-être j'ai déjà cité. Bon. Et donc, je vais aussi écouter les autres concours partenaires, c'est très important. Ça me permet de rencontrer, bien sûr, nos homologues européens, de rencontrer de nombreux chefs de chœur et de nombreux chœurs. Et c'est tout à fait passionnant parce que ça permet d'entendre évidemment énormément de chœurs de très grande qualité, mais aussi ça permet de discuter avec les chefs de chœur, les choristes, les membres du jury, voilà. Et en discutant avec eux, c'est toujours tout à fait enthousiasmant parce que ça permet de se rendre compte aussi que la ville de Tours et le concours de Tours, particulièrement le florilège vocal, est connu vraiment dans le monde entier. Voilà. Concernant mes autres occupations, effectivement, je suis musicien, donc comme je l'ai dit, j'ai beaucoup fait de direction de chœur, direction d'orchestre. Je suis aussi organiste et puis donc j'enseigne à l'université François Rabelais, j'enseigne au centre de formation des musiciens intervenants. Donc il y a un département de l'université François Rabelais où nous formons les étudiants, les futurs musiciens intervenants qui vont travailler pour faire de la musique aux enfants dans les écoles essentiellement.
Est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier, cette idée d'apprendre à des jeunes gens à transmettre la musique? Est-ce que cette idée de transmission d'un savoir musical, une pratique musicale, c'est important pour vous?
Et oui, c'est fondamental parce que on a coutume de dire, malheureusement, et encore une fois, les voyages que j'ai la chance de pouvoir faire en Europe me montrent qu'il y a d'autres traditions dans d'autres pays un peu plus ancrées sur la musique dès le plus jeune âge et notamment sur le chant. Et donc le fait de pouvoir transmettre aux jeunes enfants, de former les petits et les plus grands, c'est la façon, à mon avis, la plus importante d'assurer l'avenir musical de notre pays et ces jeunes enfants à qui on essaie de donner le goût à la musique dès leur plus jeune âge, ce seront à leur tour des musiciens, des chanteurs et des gens qui aimeront la musique, qui iront au concert, qui auront envie de se cultiver, de cultiver leur oreille. Et donc je pense que c'est effectivement fondamental.
À quoi ça ressemblerait une vie sans musique, à votre avis?
Ah, ça serait vraiment un paysage de désolation, quelque chose comme ce qu'on peut imaginer après une guerre nucléaire. Voilà, l'absence, pour moi, ce serait l'absence de couleur, l'absence de relief, un paysage de désolation. Oui.
Bon, eh bien, j'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas, durant ce bel événement. Et merci à vous. Voilà. Et peut-être, voulez-vous nous dire un mot sur les chorales qui sont invitées cette année?
Oui, alors donc... Les chœurs que nous invitons sont des chœurs qui sont sélectionnés. Il y a une commission musicale donc à laquelle j'appartiens au niveau du florilège vocal et nous écoutons les enregistrements qui nous sont proposés par les chœurs qui candidatent pour venir participer à ce concours. Et puis donc cette année nous avons une riche palette de pays et de diversité musicale puisque nous avons deux chœurs philippins, nous avons un chœur qui vient des États-Unis, un chœur italien, un chœur espagnol. Donc voilà, c'est une pluralité, une diversité de pays, de pratiques chorales et tous réunis autour de leur passion pour le chant choral, pour la musique.
Bon, nous irons l'écouter avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci.
Je n'aimerais pas vivre en Amérique, mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre à la belle étoile, mais parfois si.
J'aimerais
bien vivre dans le cinquième, mais parfois non.
Je n'aimerais pas vivre dans un donjon,
mais parfois si.
Je n'aimerais pas vivre d'expédients,
mais parfois si. J'aime bien vivre en France, mais parfois non. J'aimerais bien vivre dans le Grand Nord, mais pas trop longtemps.
Je n'aimerais pas
vivre dans un hameau, mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre à Issoudun, mais parfois si.
Je n'aimerais pas vivre sur une joue,
mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre dans un xar,
mais parfois si.
J'aurais bien aimé aller sur la lune.
aller sur la lune, mais c'est un peu tard.
Mais c'est un peu tard.
Je n'aimerais pas vivre au Negresco. Je n'aimerais pas vivre en Orion. J'aime bien vivre à Paris.
Mais parfois
je n'aimerais pas vivre au Québec.
Mais parfois
je n'aimerais pas vivre sur un récif. Mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre dans un sous-marin. Mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre dans une tour.
Mais
parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre avec Ursula Andrés. Mais parfois si. J'aimerais vivre vieux. Mais parfois non.
Je n'aimerais pas
vivre dans l'Ion, mais parfois si.
Je n'aimerais pas vivre dans Zanzibar,
mais parfois si.
Puis en compagnie d'un groupe qui s'appelle Piccolo. Et dans un premier temps, je vais poser une question très très simple. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et que vous vous présentiez ?
Emmanuel, la seule fille du groupe Piccolo.
Raphaël, je chante la voix de ténor dans le groupe.
Laurent, basse.
Christophe, plutôt baryton.
Et Étienne, plutôt la voix aiguë des hommes ou alors grave des femmes, donc alto ou contre-ténor, comme on veut.
Et l'autre question assez simple aussi. Vous êtes un groupe assez ancien, j'ai lu du coup 1991, hein, je ne me trompe pas. Comment vous vous êtes rencontrés, comment il est né ce quintet?
En fait, on s'est rencontrés autour de la voix. On était tous instrumentistes au départ, mais on aimait particulièrement chanter. Et donc, ce sont d'abord des amis qui se sont rassemblés pour chanter, d'abord des reprises et assez rapidement des créations sans aucun instrument sur scène parce qu'on aime particulièrement la cappella.
Dès le début, vous vouliez chanter du coup à cappella, il n'a jamais été question de mettre des instruments?
En fait, non, au départ, on s'est accompagnés. On a eu des instruments de musique sur scène, guitare, trombone, clarinette, voilà, harpe. Et puis aussi des bandes enregistrées, contrebasse aussi. Puis finalement, le pari de la cappella s'est fait assez vite et assez naturellement, en se disant qu'il fallait qu'on se débarrasse peut-être de ces choses-là. Ce qu'on peut peut-être préciser par rapport à Emmanuel, c'est comme on est à Radio Campus, c'est qu'on s'est connus à la fac.
Comme formation, vous avez une formation particulière du coup en musique?
On est tous étudiants en musicologie, enfin ce qu'on appelait l'Institut de musicologie ou musique, fac de musique, je ne sais pas trop comment on dit, avec des cursus divers et variés et différents. Et puis en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu des petits accidents de parcours, c'est qu'un des membres du groupe est parti pour travailler, et donc c'est Raphaël qui est arrivé, c'est le dernier né du groupe, le petit dernier. Voilà, donc on a des parcours un petit peu différents. On est tous musiciens, on a tous un premier, un deuxième métier dans le piccolo, mais tous musiciens.
Et comment d'ailleurs on arrive dans un groupe du coup qui est déjà constitué? Ça a été facile?
Ouais, c'était un peu un défi parce que c'était un groupe constitué depuis presque 25 ans, enfin depuis une vingtaine d'années au moment où je suis arrivé. Et donc c'était pas facile pour eux, je pense, ni pour moi, mais je connaissais le groupe depuis un certain temps pour les avoir vus sur scène. J'avais beaucoup apprécié leur travail et j'étais moi-même habitué au chant choral, disons, en général.
Qu'on l'intègre et il a fallu qu'il nous supporte, ce qui n'était pas gagné au départ.
On va parler des conceptions des morceaux. On a pu du coup vous entendre hier en première partie là, au Grand Théâtre. Comment ça se construit en fait pour créer cette harmonie qui est quand même assez totale sur scène? Vous partez de morceaux qui est à l'origine, ou tout le monde est à l'origine d'un morceau particulier? Comment ça se gère ça?
Alors on est trois en fait, parfois même quatre, à écrire les différents arrangements. Parce qu'évidemment, ça suppose, le fait de chanter à quatre hommes plus une femme suppose des arrangements particuliers, spécifiques pour notre formation. Et donc, on écrit nos partitions. Et après, il y a des heures et des heures et des heures de travail pour effectivement coordonner tout ça et faire que ça ressemble avant tout à un groupe vocal et pas à des individualités qui se croisent.
Et du coup, plusieurs heures, ça, c'est combien du coup, pour un morceau, du début à la fin sur scène, ça, vous comptez pas?
C'est difficile de compter. Si on part vraiment de la première écriture, de la première note, il faudrait même partir de la première idée. C'est vraiment compliqué. On a beaucoup travaillé en période de répétition, plutôt sur des week-ends. On fait d'abord la musique, ensuite on est plutôt sur la mise en scène. L'un d'entre nous écrit des pièces qui sont parfois plus pensées pour le théâtre, et donc il va expliquer un petit peu comment il gère ça. C'est vrai que par exemple moi c'est plutôt la musique et ensuite les paroles, et ensuite on voit ce qu'on peut en faire, mais certains pensent théâtre d'abord, n'est-ce pas Christophe?
Ouais, vous avez bien raison Étienne, merci de me donner la parole. C'est-à-dire qu'au bout de toutes ces années de création commune, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est trouvé, j'ose dire, un univers picolien avec des sensibilités assez différentes. Alors sur le timing que tu évoquais, ça peut être des années, c'est-à-dire une chanson qui trotte dans la tête, une histoire, un truc, une anecdote qui donne un texte, puis un texte qui est mis en musique, etc. Ça peut être très rapide, ça peut être l'espace d'une nuit, c'est-à-dire un texte qui traîne dans un couloir, dans un tiroir, qui n'a pas été fait forcément par nous, et paf, qui devient une chanson du jour au lendemain. C'est déjà arrivé, vraiment. Et c'est ça, je pense, qui fait au final l'intérêt du spectacle, de l'univers de Piccolo. Comme Diane disait, des chansons qui sont pensées plus théâtre musical, donc déjà qui ne font pas l'objet de chansons et qui d'ailleurs ne sont pas enregistrées sur un CD. Et d'autres qui sont vraiment des chansons, quoi, avec un refrain, des couplets, etc. Enfin, qui pourraient être chantés en soliste avec une guitare.
Du coup, j'ai vu, il y a du coup des albums hein, qu'on peut écouter sur des plateformes, puis il y en a évidemment en physique. Du coup, il y a des chansons qui sont pensées pour voilà, des albums et des chansons qui sont pensées pour le spectacle. Vous les dissociez ?
Oui, non, c'est-à-dire qu'au départ, toutes nos chansons sont pensées pour être données sur scène. Et puis après, quand on les enregistre sur CD pour que les gens qui ont vu le spectacle repartent avec, on a tendance à les penser un petit peu autrement et à en faire vraiment quelque chose d'audio, de sonore, qui est avant tout une qualité sonore. C'est vrai que sur scène, on a tendance des fois à bouger énormément de par la mise en scène et on peut soigner un petit peu moins le son, tandis que là, le disque se veut vraiment avant tout musical, mettre en valeur le texte, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sur scène, hein, mais les deux options sont un petit peu différentes et on peut changer, par exemple, le plan des chansons sur le CD. Il peut y avoir des grandes introductions sur scène parce qu'il se passe d'autres choses visuellement, on a d'autres choses à raconter, par exemple.
Et du coup, vos spectacles, ils déroulent autour d'un même fil conducteur? Ou alors vous avez plein de chansons et vous essayez après coup d'avoir un fil conducteur?
C'est-à-dire qu'on travaille depuis 10 ans avec un metteur en scène parisien, Georges Gagneret pour ne pas le nommer. Et en fait, chacun fait des chansons dans son coin. Et puis on les rassemble et puis on voit ce qu'on peut faire pour raconter quelque chose. Alors c'est quelque chose qui peut être raconté de façon assez premier degré, mais la plupart du temps c'est quand même quelque chose qui est raconté avec un second degré, voire un troisième degré, sur un fil conducteur autour de la fille, par exemple, des choses comme ça. Mais non, on n'a encore jamais fait de spectacle pensé d'emblée pour être unitaire au départ.
Et ça, c'est facile, vous qui avez des formations de musiciens, de chants, de se mettre en scène aussi autant, là, comme du théâtre?
En fait, pour nous, ça a été une véritable libération. D'abord, on est passé d'une expression derrière nos instruments à une expression purement vocale. Ensuite, on avait des micro-mains, notamment, et on est passé à des micro-casques qui nous ont permis vraiment de libérer les mains, les corps, et de pouvoir exprimer de la tête aux pieds, pas seulement en chantant, quoi. Donc pour nous, l'expression théâtrale, elle est finalement assez importante.
C'est tout le paradoxe du chant. C'est-à-dire qu'on a l'image du chant choral, même si on ne peut pas dire que Piccolo, c'est vraiment du chant choral. On a l'image du chant choral assez statique, à l'ancienne, globalement. C'est que, comme disait Emmanuel, c'est une libération parce que le corps et les gestes aident indubitablement à l'expression. Mais si la musique est compliquée, c'est le revers de médaille, c'est que plus on bouge, moins bien on risque de chanter. Donc tout notre problème, il est là, c'est d'arriver à tout concilier, parce qu'on est attendu à tous les coins du bois, donc les chanteurs risquent de nous dire « Ah, c'est pas très bien chanté », les gens de théâtre disent « Oui, bon, la mise en scène, c'est pas terrible ». C'est ça qui est difficile dans notre affaire, c'est qu'on court beaucoup de lièvres à la fois du plan du spectacle, et qu'il faut pas donner prise à que ce soit déprécié sous un angle ou sous un autre.
Ce qui est important pour nous, c'est que finalement, on fait du spectacle total, c'est-à-dire qu'on travaille la danse, on travaille l'écriture, on travaille le chant, on travaille le théâtre. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression de pouvoir exprimer quelque chose qui est vraiment notre, qui nous est propre sur scène.
Et au niveau de la voix, voilà, tout à l'heure, quand vous êtes présenté, vous avez dit un peu les tessitures. Alors, on parle de tessitures, c'est ça, hein ? Et comment on arrive avec des tessitures différentes à homogénéiser le chant.
C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte sur le temps, mais c'est qu'on oublie un peu dans notre affaire notre vocalité personnelle au service d'un son d'ensemble, justement. Donc ça, c'est très particulier aussi. Il ne s'agit pas simplement de savoir chanter dans son coin, mais de savoir se fondre avec les autres. Mais c'est inconscient. La plupart du temps, on ne se dit pas « je vais me fondre avec les autres ». Ça vient plus ou moins.
On travaille aussi sur les équilibres des accords. Ce qui est un petit peu spécifique au groupe vocal aussi, c'est qu'il n'y a pas un soliste accompagné par les autres. C'est que d'une phrase à l'autre, on peut devenir accompagnateur, avoir la voix principale, etc. Donc on est en permanence en écoute par rapport les uns par rapport aux autres. Et on a aussi travaillé, par exemple, avec des personnes qui viennent du cirque pour pouvoir sentir les choses ensemble en même temps sans se donner des départs ou sans se donner l'impression qu'on communique entre nous, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer sans en donner le sentiment parce qu'on est très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, visuellement aussi bien sûr, et des états des autres.
Hier on a pu entendre là, dans un des deux morceaux une adaptation d'un titre de Brassens hein. En parlant par exemple de celui-là, comment c'est venu, qui a eu l'idée et comment le morceau s'est construit?
Là c'est un morceau un petit peu spécial, l'idée est arrivée par une personne extérieure au groupe en fait, qui a proposé d'adapter un certain nombre de classiques de la chanson française. Et on a cherché et on est tombé sur ce titre-là, parce que pour nous, toucher à Brassens, comme toucher à Brel, ou toucher à Ferré, ou toucher à Ferrat, c'est compliqué. Et puis finalement, on s'est prêté au jeu, puis on s'y est collé. Et Christophe a préparé un arrangement qu'on a, entre guillemets, aménagé à 5. C'est peut-être un des seuls arrangements, d'ailleurs, où chacun a mis un petit peu sa patte. Mais au départ, c'était pas forcément une idée. Bon, donc c'est vraiment une idée qui est arrivée de l'extérieur. Mais très souvent, quand les idées de reprise reviennent de chants, c'est souvent très très personnel. On se dit pas tous ensemble, tiens, on devrait faire un Renault ou un Goldman ou un Bidule ou un truc. Non, c'est vraiment quelque chose et dans l'arrangement et dans la composition, c'est vraiment quelque chose qui est un peu solitaire en fait. Voilà, c'est un petit peu, oui, c'est assez personnel.
On a un titre variété, et c'est quelque chose que vous aimez bien, ça, la variété. Est-ce que on pourrait définir, voilà, est-ce que la variété, c'est un peu un fourre-tout. Est-ce qu'on pourrait définir est-ce que vous avez une définition de la variété?
Alors ça, moi je pense que c'est une bonne question pour Laurent, qui n'a encore rien dit, parce qu'il faut absolument que vos auditeurs entendent sa belle voix grave, ils perdraient quelque chose si ce n'était pas le cas, donc Solène, passez-lui la parole.
Alors, il n'y a pas de bonne variété ou de mauvaise variété, je pense qu'il y a une variété tout court, je crois que dans variété il y a beaucoup de choses effectivement, et qu'il y a des chansons à texte. Et je crois que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on aime défendre. Et la poupée de Brassens en fait partie.
Et on revient au fait de courir tous les lièvres à la fois, c'est-à-dire que non seulement des musiques qui sont parfois compliquées, un peu complexes, polyphoniquement, mais aussi des textes qui le sont aussi. Et tout le défi, c'est que tout ça, ça ne paraisse pas trop abscon, trop complexe sur scène. Voilà.
On a l'impression de voir que c'est facile et en même temps, ce n'est pas facile quoi, de faire ça. Donc c'est tout le... Non, mais c'est, comme vous l'avez dit au début, c'est plein d'heures et d'heures de travail. Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il y a eu une ambiance, alors tu parlais de picolienne, on pourrait définir ça comment du coup, c'est quoi être picolien?
Il faut se méfier parce que dans le mot déjà il peut y avoir des jeux un peu bizarres dans piccolo, l'ambiance est plutôt bon enfant, on essaye d'avoir c'est-à-dire que c'est évidemment le regroupement d'amis, qui chantent, qui n'ont pas besoin d'être en vacances, toutes les vacances ensemble, tout ça, mais quand on se retrouve, on est vraiment là. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'avoir une démarche quand même, j'allais dire professionnelle dans le travail, c'est-à-dire qu'au-delà de l'amitié qu'on peut se porter, il faut qu'on puisse se dire les choses au niveau musical et vocal et théâtral. C'est pas toujours évident, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer. Et puis, ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est que ça sonne, quoi, c'est que ça résonne entre nous. C'est ça qui fait l'ambiance de Piccolo. L'idée, c'est pas d'être à la colle tous les sets, parce qu'il faut aussi imaginer qu'il y a un technicien lumière et un technicien son qui nous suivent tout le temps. On se départit jamais de ces deux membres de Piccolo qui sont vraiment très 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 importants. Et donc, chacun un petit peu vaque comme bon lui semble, mais quand on est ensemble, on est là. Voilà, c'est ça peut-être le point de retour. Emmanuel, tu voulais compléter ?
Le maître mot, un petit peu, je crois que c'est qu'on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver, à chanter ensemble, à tourner ensemble, et que ça, on aurait du mal à s'en passer.
Au-delà des difficultés, s'il vous plaît, c'est sérieux, au-delà des doutes, des tensions, des moments difficiles. Des moments difficiles. Piccolo reste quand même. Je suis calme. Une magnifique histoire d'amitié. Voilà ce que je voulais dire. Merci, merci de m'avoir écouté.
Non, il y a un vrai défi à Piccolo. C'est le plus difficile, c'est d'accepter les autres.
Vivement lundi qu'on reprenne le train pour retrouver une vie tranquille, je te le dis.
C'est quoi vos prochains rendez-vous après les Florilèges?
Alors après les Florilèges, on a une date à Paris le samedi 10 juin, 17h, au Théâtre des Déchargeurs. Ensuite, on prendra un peu de vacances. Pour certains, ça sera aussi du travail, puisqu'il y en a qui jouent la comédie ou qui terminent des choses, qui font des emplois du temps pour les années suivantes. Et puis ensuite, on est à la rentrée plutôt dans notre région, dans le Grand Est, à Épinal, à côté de Nancy aussi. Et puis on ira chanter à Annecy, donc c'est toujours dans l'Est. Au mois de mars prochain, et donc les dates arrivent comme ça tranquillement. Et puis on a en préparation un nouveau spectacle qu'on espère bien créer dans la saison 18-19. Donc on a encore un petit peu de temps, mais ça commence à presser. Oui, il faut que ça germe.
On peut trouver toutes les dates de Piccolo sur le site internet www.piccolo.fr, hein, ou alors sur le Facebook de Piccolo, mais en mettant Piccolo Groupe Vocal. Et puis là, on peut suivre des péripéties qui sont un petit peu plus légères, on va dire.
Si vous n'avez rien à rajouter, je vous remercie d'avoir répondu à mes quelques questions pour Radio Campus. Merci à vous.
Merci.
Pour cette émission, le DAU et Cinéma Paradiso remercie Claudia Jarocchi.
Le DAU vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.